entretien avec des salariés suspendus suite à l'obligation vaccinale imposée par la loi dite de gestion de la crise sanitaire dans certains secteurs professionnels. Une émission enregistrée le 18 octobre 2021.
Votre gouvernement, qui malgré nos alertes bien antérieures à la crise sanitaire, parce que ça fait des années qu'on est dans la rue pour dire qu'il faut arrêter de fermer des lits, nous fait subir des pressions qui nuisent à nos conditions de travail, ne met toujours pas en place de réelles politiques de santé publique solides et cohérentes. Nous rejetons toute suspension de contrat de travail, sanctions, ruptures anticipées, licenciements, imposition arbitraire de congés ou de récupération. Nous exigeons qu'aucune disposition de cette loi ne vienne modifier la garantie des salariés. Suspendre ou licencier des professionnels sous prétexte qu'ils ou elles n'auraient pas leur passe sanitaire conduirait à l'évidence à une dégradation des conditions de travail et d'accueil des usagers et usagères de nos services.
Monsieur Macron lui-même nous avait dit qu'il n'y aurait pas, que les vaccins ne seraient pas obligatoires. Et en fait, ils le sont de fait. Quand on dit à un personnel de santé que s'il ne se fait pas vacciner, il est licencié. Le 14 juillet 2020, on les décore sur les Champs-Élysées. Et en juillet, le 12 juillet 2021, on les menace de licenciement s'ils ne sont pas vaccinés. Alors, le 15 septembre, ce qui se passe ou ce qui doit se passer, c'est une mobilisation colossale de tous les acteurs de la société autour de nos personnels soignants pour les protéger, pour les défendre et refuser qu'ils soient licenciés au prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Il faut mettre un cran d'arrêt à tout ce processus délétère qui gangrène notre société. Donc, moi, j'appelle de mes voeux, et c'est le citoyen qui parle, citoyen universitaire, j'appelle de mes voeux la mobilisation la plus forte, la plus lourde autour de tous nos personnels soignants. Arrêtons de les applaudir, venons les soutenir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée, comme l'indiquait l'ouverture que vous venez d'entendre, aux salariés suspendus, des salariés qui subissent les mesures prises par la loi dite de gestion de la crise sanitaire promulguée le 5 août 2021. Une loi qui impose dans certains secteurs l'obligation vaccinale sous la menace de suspension. Un délai avait été octroyé jusqu'au 15 septembre et à la date du 15 septembre, des suspensions sont effectivement tombées. Pour en témoigner et pour en parler avec nous en studio, Pierre et Laure qui ont subi de plein fouet cette mesure, qui sont aujourd'hui empêchés de travailler dans des secteurs où pourtant on manque de personnel, où la situation est déjà très tendue. Ils et elles vont nous raconter tout ça. Bonjour Laure, bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous laisser peut-être vous présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
Alors, moi je m'appelle Pierre, je suis éducateur spécialisé dans un IMPRO, donc Institut Médico-Professionnel. Donc j'accompagnais des jeunes qui ont entre 12 et 20 ans et qui ont une déficience intellectuelle légère à moyenne.
Donc moi c'est Laure, je suis professeur CAPEJ. Donc en fait c'est un enseignement spécialisé auprès d'enfants sourds et dysphasiques. Et je travaille pour la fondation Bon Sauveur d'Albi.
Peut-être avant qu'on parle de ces suspensions et de tout ce dont elles se sont accompagnées, j'ai envie de vous demander comment vous allez, parce que vu le contexte, la question elle perd un peu de la banalité qu'elle a d'ordinaire.
Ouais, c'est une situation qui est un peu compliquée à vivre, parce que du coup, moi ça fait 5 ans que je fais ce métier-là, et puis ben, du jour au lendemain, on m'a dit ben, « vous ne pouvez pas venir travailler aujourd'hui, ce ne sera pas possible ». Et du coup, bah depuis, bah, je ne travaille plus. De fait, je suis sans revenu, du coup, puisque c'est... Alors moi, c'est un petit peu différent. Je me suis mis en grève. Je l'expliquerai peut-être plus tard. Mais voilà, ça fait un mois maintenant, un peu plus, que je ne travaille plus et que je n'ai plus de salaire.
Oui, alors bon, ben, c'est une situation, on va dire, assez violente, quoi. C'est toujours compliqué hein, de répondre à la question « comment ça va ?» depuis cet été, hein, depuis que la loi est passée. Voilà, c'est ultra particulier et c'est vrai que Durant l'été, on a un petit peu espoir. On se dit, ça va bouger, c'est pas possible. À la rentrée, ça va pas se passer comme ça. Puis finalement, effectivement, il y a la date butoir du 15 qui arrive. Et puis au 15, plus rien, en fait. Plus rien. On prépare l'année, on prépare comme si tout allait bien. Et puis au final, au 15, on n'est plus là. Et puis, il se passe rien de plus, en fait. Rien de plus. Donc, ouais, c'est super violent, en fait.
On va revenir un peu sur tout ça. Je voudrais simplement... décrire le petit montage qui a ouvert l'émission. On a entendu du son de manifestation à Albi cet été, les manifs du samedi contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. C'était plus précisément la manif du 31 juillet. On a entendu ensuite Céline, porte-parole de Sud Santé Sociaux. C'était lors de la venue de Jean Castex à Albi le 18 août 2021 devant l'hôpital. On a une grosse pensée pour Céline aujourd'hui qui travaille aussi au Bon Sauveur et qui aussi est salariée suspendue, qui est également sans salaire. Elle est maman d'un enfant qu'elle élève seule. Je crois que c'est important de le dire parce que ça crée des conditions très difficiles, la violence dont tu parlais, Laure. Et puis on a ensuite entendu Christian Vélo, maître de conférence en génétique moléculaire à l'Université Paris-Sud, membre du conseil scientifique du CRIGEN, qui est un conseil indépendant sur la recherche en génétique, qui parlait dans un documentaire qui s'appelle « Liberté blouse blanche ». Alors, c'est pas très important que ce soit le professeur Vélo qui tienne les propos qu'on a entendus. Ce qui est important, je crois, c'est un peu ce que tu disais, Laure, c'est qu'il appelle à une mobilisation colossale pour le 15 septembre. Les propos ont été enregistrés en plein été. Et puis la mobilisation, elle n'a pas eu lieu. Il y a bien eu des manifs le samedi depuis les annonces de Macron le 12 juillet, mais on n'a pas eu le soulèvement qu'aurait dû susciter, notamment du côté des syndicats, ces mesures que vous subissez aujourd'hui et qui sont une grave atteinte au code du travail. On va peut-être y revenir. Comment s'est passé pour vous cet été? Comment vous avez réagi aux annonces de Macron le 12 juillet et comment vous avez préparé le 15 septembre ou comment vous avez évité de considérer cette date?
Alors moi, après le 12 juillet, du coup, après les annonces, j'étais très très en colère. De la façon dont ça avait été fait et de cette date couperet là qui allait tomber le 15 septembre, je pensais pas que ça irait jusque là. Et pendant l'été, moi j'espérais vraiment une mobilisation. Il y avait eu pas mal de manifestations les samedis sur Albi. Dans d'autres régions de France, il y avait l'air d'y en avoir aussi. J'avais l'impression que ça montait un peu. Puis je me disais, bon, c'est l'été, il y a quand même un peu de monde, donc ça veut dire qu'à la rentrée, il y aura vraiment beaucoup de monde. Et en fait, à la rentrée, il y avait presque moins de monde que pendant l'été. Et du coup, ça a été dur à vivre, ce moment-là, quoi, où on se rend compte que on n'est pas tout seul, mais on n'est pas beaucoup, quoi, à lutter contre ça. Et du coup, le rapport de force, il n'est pas là.
Alors, moi, ça a été pareil. Hein. Pour une fois dans ma vie, j'ai écouté le discours du président à la radio, le 12, donc. Et du coup, même réaction, hein, de la colère. Et je me suis dit non, ça c'est pas possible, ça va pas passer cette histoire du pass sanitaire, l'obligation vaccinale. Et du coup, j'ai suivi toutes les étapes une par une, et à chaque fois en croisant les doigts. Et puis au final c'est passé. Donc on s'est quand même mobilisé, effectivement, comme dit Pierre, tous les samedis, il y avait du monde. Ça faisait, c'était les, on va dire les bouffées d'air frais de la semaine, et voilà. Et c'était vraiment les moments où moi je me suis ressourcée, parce que après, à côté de ça, j'ai vraiment passé un été de merde, voilà, parce que tout ça, ça m'a ultra stressée, quoi. Donc voilà, ouais, j'y croyais, quoi. Mobilisation, j'y croyais, et puis est arrivé le 1er septembre, donc nous, la rentrée scolaire, quoi. Et voilà, donc là, un peu moins de mobilisation, et du coup, la tête dans le boulot. Alors là, je pense que j'ai fait semblant pendant 15 jours, quoi. J'ai essayé de pas y penser et d'être au boulot, quoi. Et voilà, j'ai fait comme si tout allait bien pendant 15 jours, et puis voilà. Voilà. Après, c'est 15 septembre, c'est là que ça... Ça fait quand même pas mal de casse d'un point de vue personnel, quoi.
Et au niveau professionnel, au niveau de vos employeurs, à partir de quel moment on a commencé à vous dire, avec plus ou moins de pression, qu'il va falloir vous faire vacciner? On a commencé à savoir, à vouloir savoir si vous étiez vacciné. À quel moment ça s'est produit? Comment ça s'est fait? Qui vous a demandé ça?
Alors nous, c'était dès le premier jour de la rentrée. Donc nous, on est rentré, je crois, le 23 août. Et le 23 août, on a eu une réunion avec la direction où ils nous ont dit, à partir de maintenant, il faut fournir le pass sanitaire. Donc ils nous ont laissé, je crois, un délai de 2 jours. Et à partir du 15 septembre, il faudra au moins une dose de vaccin. Et à partir du 15 octobre, les deux. Donc vraiment, dès le début, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Ils nous ont demandé ensuite de venir un par un dans le bureau pour donner notre statut vaccinal. Je crois que j'ai été le seul à pas y aller. Tous mes collègues y ont été. Et du coup... ils se sont doutés que j'allais pas me faire vacciner, et donc par la suite, en fait, dès qu'on est rentré, ils voulaient absolument appliquer la loi de suite et puis montrer qu'ils faisaient bien les choses.
Bah nous, pour côté fondation, en fait, pendant l'été, là, pendant nos congés, on a reçu plusieurs mails au niveau de la DRH, puis la direction du CESDA. Et puis des notes de service qui rappelaient que le bon sauveur appliquerait la loi, donc avec tous les rappels qu'il fallait enclencher leur schéma vaccinal avant le 15 septembre pour être dans les clous. Voilà, et donc ensuite, à la rentrée, ça nous a été rappelé, mais on ne nous a pas trop embêté, hein. On était censé fournir un pass sanitaire pour ceux qui... Enfin, fournir notre passe sanitaire, quoi, par mail ou par... Chose que moi, j'ai pas spécialement faite. Donc, ma chef de service est venue me trouver. Elle n'était pas à l'aise avec ça du tout. Et elle m'a dit, il faut que vous me montriez votre passe sanitaire. Voilà, elle me l'a demandé une fois. Et puis après, à l'approche du 15 septembre, elle est revenue me voir dans la classe. Entre deux cours pour me dire comment vous positionnez. Après, c'était plus une démarche d'être un peu à l'écoute et de voir comment ça allait se passer au-delà du 15, quoi. Voilà, donc après pas plus.
Et ça se passe comment concrètement? Parce qu'en fait, ces suspensions, c'est quelque chose d'un peu inédit. C'est pas vraiment des mises à pied qui sont des sanctions disciplinaires. Vous recevez une lettre, on vous a remis une lettre. Alors toi, Pierre, du coup, tu t'es mis en grève. Tu vas peut-être nous expliquer ça. Et puis on reviendra peut-être sur ta situation, Laure, si tu veux en parler, sur la manière dont ça s'est passé. Il y a un rendez-vous avec la DRH qui est prévu.
Ouais. Alors moi, du coup, c'est le 13, donc 2 jours avant le jour de la suspension, on m'a convoqué dans le bureau de ma direction et on a voulu me remettre une lettre de suspension, donc qui me notifiait que j'étais suspendu à partir du 15 septembre parce que j'avais pas mon statut vaccinal. Et donc moi, j'ai dit, votre lettre, je la signe pas, je me mets en grève. Et du coup, depuis ce moment-là, j'ai aucun contact avec ma direction et je suis en grève. Donc tous les jours, je leur envoie un petit mail pour leur dire que je suis en grève, mais pas plus.
Concrètement, financièrement parlant, la grève, c'est la même situation que la suspension, puisque pas de salaire. Mais du coup, ça te met dans une posture de résistance.
C'est ça. Ça me met dans une posture où c'est moi qui suis actif et je subis pas la suspension. Et pratiquement aussi, ça les embête un petit peu, puisque du coup, ils peuvent pas me remplacer sur la structure. Voilà, c'était un moyen de rentrer en lutte et de pas subir complètement les événements, même si de fait je les subis quand même. Hein, c'était un moyen de garder de la dignité aussi et de rester un peu debout.
Laure, je sais pas si tu veux nous raconter comment ça s'est passé pour toi.
Oui, alors nous on a reçu déjà un courrier le 3 septembre nous disant nous vous rappelons qu'il faut rentrer dans le schéma vaccinal et sauf erreur de notre part, vous ne nous avez pas fourni les documents relatifs à votre vaccination, donc nous vous rappelons qu'au 15 septembre les contrats seront suspendus, etc., etc. Voilà, donc ça c'était un premier courrier et ensuite rien en fait, hein. On savait qu'au 15 si on allait au boulot, on nous demanderait d'aller à la DRH chercher notre courrier de suspension. Donc moi je travaille à mi-temps, donc le 15 j'étais pas au travail, j'ai pas eu à y aller. Je me suis évité cette violence là aussi, je pense, hein. Et donc j'ai reçu mon courrier avec accusé de réception là en fin de semaine, donc le 18, le 17 ou le 18, comme quoi j'étais suspendue. Voilà. Ensuite de là, gros blanc pendant 15 jours, on va dire, et jusqu'à une invitation à un entretien avec la DRH à la fin du mois de septembre. Voilà, un entretien auquel la DRH a refusé tout accompagnement syndical. Voilà, se voulant dans la bienveillance. Elle était accompagnée, elle, par la référente santé au travail de la Fondation. Voilà, donc entretien que j'ai accepté de faire malgré tout. Voilà, ça m'a beaucoup coûté, mais je l'ai fait parce que je pense que c'était nécessaire pour moi. C'était une étape de plus. Et puis, à un moment, on n'a pas envie de repousser les choses. Il faut aussi acter certaines choses pour après passer un petit peu au-delà de tout ça. Donc, voilà comment ça s'est passé.
Et là, concrètement, vous savez comment les choses fonctionnent ou dysfonctionnent sur les établissements où vous êtes. Pour les postes que vous occupiez, vous savez si la suite a été prise, parce que vous êtes quand même en responsabilité devant des personnes, des enfants dont il faut s'occuper. Il y a des solutions qui ont été trouvées à votre absence, parce que ça crée quand même un manque important.
Alors moi, je ne sais pas du tout, parce que du coup, j'ai aucun contact avec l'établissement. Donc je sais pas, j'imagine que ça doit quand même être compliqué parce que du coup déjà avant le Covid et avant cette suspension vaccinale, il y avait des grosses difficultés de fonctionnement en lien avec la difficulté de trouver des personnels et de trouver des personnels diplômés, formés. Donc je pense pas que cette difficulté se soit envolée comme ça parce qu'il y a eu l'obligation vaccinale. Et de fait, du coup, il manque quand même une personne dans l'équipe d'accompagnement, puisque je suis en grève et du coup pas remplaçable.
Alors nous, au niveau du CESDA, on est quand même 5 à être suspendus. 2 profs, 2 éducs et une psychomote actuellement. Et du coup, bon, je sais pas exactement comment on a été remplacé. Moi, je sais que mon remplacement, au début, ça a été du bricolage, on va dire, hein, parce que c'est quelqu'un qui m'a remplacé, qui n'était pas du tout sur le versant pédagogique, plutôt sur le versant éducatif. Donc, il n'y a pas le diplôme requis pour la classe. Hein. Des professeurs CAPEJ, ça court pas les rues, hein, parce que c'est quand même assez ultra spécifique. C'est de l'enseignement vraiment auprès d'enfants sourds et dysphasiques. Et en gros, ça se trouve pas comme ça à chaque coin de rue, quoi. Donc je sais qu'après, ils ont posté des annonces. Voilà, ils ont fait le job pour recruter derrière. Mais voilà, je sais pas, j'ai un peu pris de la distance avec le boulot, donc du coup je me suis pas non plus trop tenue au courant. Je sais que quand même la direction du CESDA a fait passer aux parents l'information comme quoi il y avait du personnel de suspendu et que voilà, du coup ils assuraient pas les choses comme ils devaient l'assurer normalement, quoi.
On va revenir peut-être un peu sur ces conditions de travail, puisque vous en avez parlé, qui sont très dégradées bien antérieurement à ces suspensions, bien antérieurement à la crise du Covid. Peut-être on peut faire une première petite pause musicale dans cette émission un peu lourde. Hein. C'est pas très simple. Je propose qu'on écoute la nouvelle chanson de Stromae, Santé, qui rend hommage aux travailleurs et travailleuses de l'invisible dont vous faites partie. Et là, on vous fait bien sentir qu'on est quand même des jetables.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère?
Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Vous êtes sur les ondes de Radio Albigès 95.4 ou 104.2 et on consacre cette émission aux salariés qui sont suspendus suite à la loi dite de gestion de la crise sanitaire qui impose l'obligation vaccinale dans certains secteurs. Pour en parler avec nous, deux salariés suspendus, Pierre et Laure. On va poursuivre avec ces deux salariés sur les situations très douloureuses, très compliquées que crée cette loi qui est une violence supplémentaire imposée dans des secteurs déjà en grande tension et qui porte de graves atteintes au code du travail. On a commencé à le voir avec ces témoignages très concrets que nous ont rapportés Pierre et Laure. Laure, tu as donné quelques chiffres sur le bon sauveur de salariés suspendus. Est-ce qu'on sait un peu, tout secteur confondu, parce qu'en fait on parle beaucoup de la santé, mais on le voit avec vous, il n'y a pas que le secteur de la santé qui est concerné, il y a le secteur du médico-social, du social dans certains cas, les pompiers, dans l'éducation nationale, il y a aussi des personnes qui sont concernées. En fait, il y a beaucoup plus de personnes que ça. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que c'est des données qu'on arrive à avoir? Est-ce que syndicalement, puisque vous êtes tous les deux syndiqués à Sud Santé Sociaux, vous arrivez à avoir quelques chiffres pour connaître un peu les différentes situations?
Alors, c'est un peu compliqué d'avoir des chiffres. Au niveau de Sud Santé Sociaux, on a eu des remontées à un moment donné sur l'hôpital. Mais en fait on sait pas si les chiffres sont exacts, si ça concerne tout le monde, et dans tous les cas ces chiffres ils prennent en compte que les personnes suspendues, donc ils prennent pas en compte les gens qui ont démissionné, les gens qui sont en arrêt maladie, les gens qui sont en grève comme moi, et du coup c'est très difficile d'avoir des chiffres justes de toutes les personnes qui peuvent pas travailler parce que ils ont pas leur schéma vaccinal quoi.
D'autant qu'il faut ajouter à ça des personnes qui se sont fait vacciner, mais sous la contrainte, ouais. Et qui sont aussi dans une situation un peu compliquée, parce que je pense que ça crée aussi un gros malaise d'avoir dû se faire vacciner dans ces conditions et avec cette pression. Vous l'avez un peu évoqué, en fait, les secteurs dans lesquels vous travaillez, le médico-social, ce sont déjà des secteurs très abîmés par les différentes politiques qui sont pratiquées. Le Christian Vélo, dans le petit montage qu'on a entendu au début, parler de la manière dont les soignants, mais aussi les travailleurs et travailleuses du social se sont investis pendant le Covid. Vous, ça s'est passé comment, professionnellement, pendant la crise du Covid et au quotidien? Hors de la crise sanitaire, c'est quoi vos conditions de travail?
Alors nous, toute l'année dernière a été très compliquée parce qu'on avait des protocoles très stricts à respecter qui changeaient très régulièrement. Donc c'était difficile de les tenir à jour, surtout avec des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, donc qui ont du mal à porter le masque, qui comprennent pas voilà, qui au niveau de la distanciation sociale, c'est très compliqué aussi. Et ce sont des jeunes qui ont eu besoin de repères et on a eu de grosses difficultés à les faire fonctionner parce que du coup, tous les ateliers éducatifs professionnels qu'on peut faire habituellement, ben, on n'a pas pu les faire parce qu'il fallait faire des groupes plus petits, il fallait faire des groupes qui ne brassent pas, il fallait que les groupes restent toujours les mêmes. Et donc, y a des jeunes qui n'ont pas pu aller sur les ateliers dont ils auraient eu besoin parce qu'il fallait qu'ils restent toujours ensemble. Leurs emplois du temps changeaient quotidiennement, donc il fallait que tous les jours ils aillent voir « Ah ben mince, mon emploi du temps il a changé, je ne suis pas avec le bon professionnel, celui-là je ne le connais pas ». Il y a eu beaucoup d'arrêts maladie parce que du coup, ben, soit les professionnels étaient malades, soit les professionnels physiquement et puis psychologiquement c'était compliqué de travailler dans ces conditions, donc il y avait pas mal d'arrêts maladie. C'était très difficile, et c'est toujours très difficile de trouver des remplaçants. Donc ça veut dire que des fois, ben, les collègues n'étaient pas remplacés. Donc ça veut dire qu'on travaillait en sureffectif avec des jeunes en plus. Et quand ils étaient remplacés, c'était souvent par des personnes qui n'étaient pas formées, qui n'étaient pas qualifiées. Et ça a été de vraies difficultés sur le terrain pour accompagner ces jeunes-là. On a pris beaucoup de retard sur leurs orientations, parce qu'on a un établissement qui les oriente après sur le milieu adulte. Donc c'est des jeunes qui, à 22, 23, 24 ans, ne vont toujours pas être orientés vers les structures pour adultes. Enfin, c'est très compliqué, et ça va laisser des séquelles sur le long terme pour ces jeunes-là. Il y a aussi des jeunes qu'on a perdus, qui sont partis parce que les conditions d'accompagnement ne leur allaient plus, et qui ont décidé de partir du CEMPRO, et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ces jeunes. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'accompagnement. Donc toutes ces choses-là font que c'est très compliqué, ça va rester très compliqué, et on n'est pas sorti, quoi. Enfin, vraiment, on ne voit pas de sortie de cette situation. Il y a vraiment besoin de moyens supplémentaires et de gens formés qui viennent travailler. Sauf que là, bah, avec cette obligation vaccinale, on enlève encore des gens qui sont qualifiés et compétents pour travailler avec les personnes, quoi.
Éventuellement, on les remplace par des agents de sécurité, parce qu'il y a eu une grosse embauche d'agents de sécurité pour contrôler le pass sanitaire auxquels sont soumis les usagers et usagères de plusieurs structures. Laure, toi, tes conditions de travail
Alors, moi, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup, en fait, parce que j'étais enceinte au moment du Covid, de la première vague, donc du confinement. Et j'étais arrêtée jusqu'à mars dernier, où j'ai repris qu'à mi-temps. Donc c'est vrai que j'ai pas eu tout le vécu des confinements, du boulot. Alors les collègues, ils ont fait pas mal de télétravail, sauf un service où il y avait du handicap associé, donc du handicap lourd, où là ils étaient présents sur place. Et de manière contradictoire, apparemment c'était quand même public très à risque, mais finalement c'était les seuls accueillis sur la structure. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on soit tous vaccinés, alors qu'en fait, au final, bon, enfin, il y a des incohérences comme ça où. Ensuite, c'est vrai que bon, ce qui ressortait pas mal, il y a à peu près les mêmes difficultés que pour l'établissement de Pierre, hein, globalement. Mais ce qui ressortait pas mal des collègues, c'est que ils perdaient beaucoup du sens du travail parce qu'au final, bon, avec le Covid, ils n'ont pas pu faire grand-chose, il ne fallait pas mélanger les groupes, il fallait... Voilà, on était plus sur du protocole que sur du sens, quoi, et du travail auprès de l'usager. Voilà, donc c'est une période qui est difficile, hein, dont moi, je n'ai pas le vécu depuis le début, mais voilà, je sais que le retour des collègues, c'est celui-là, quoi. Perte de sens, quoi, dans ce qu'on fait.
Ouais, puis en termes d'incohérence, c'est vrai qu'on a vécu vraiment des grosses incohérences. Et moi, sur cette obligation vaccinale, pendant la crise du Covid, on m'a demandé de venir travailler alors que j'étais qu'à contact. Voilà, on m'a dit, on est en sous-effectif, là, il faut vraiment que vous veniez travailler, donc vous mettez un masque FFP2 et vous venez travailler alors que vous êtes qu'à contact. Et là, maintenant, on me demande de ne pas venir travailler alors que je vais très bien et que... voilà, enfin, vraiment, on a pris ces incohérences dans la tête pendant un an et demi, deux ans, et là, on continue à les prendre, et c'est vraiment incompréhensible, quoi.
Et on n'a pas avec nous de personnel qui travaille spécifiquement dans la santé, dans les hôpitaux, pour nous parler de leurs conditions de travail. On ne les a pas parce que c'est compliqué, là, pour elles et eux, de parler, de s'exprimer. C'est des gens qui ne vont pas bien, qu'on a démolis, mais ils pourraient aussi, et elles pourraient, nous en dire long sur ces incohérences et les conditions dans lesquelles on les a fait travailler pendant la crise du Covid pour leur dire maintenant que si ils et elles ne sont pas vaccinés, ce sont des personnels dangereux. Juste peut-être sur sur ces arrêts maladie qu'on a évoqués, hein, quand on a parlé du décompte des salariés suspendus, on a dit que ça comptait pas les arrêts maladie. Il faut peut-être préciser que ces arrêts maladie, c'est pas juste des arrêts maladie pour contourner la suspension. C'est des arrêts maladie qui sont prescrits par des médecins. Donc d'abord, on n'a pas à les mettre en doute. Et ensuite, quand on côtoie un peu ces personnels-là, on voit qu'effectivement, ils et elles ne vont pas bien parce que cette obligation vaccinale, en fait, c'est une pression supplémentaire qui vient s'ajouter à une souffrance qui est déjà là. Je ne sais pas si vous pouvez en parler, si vous avez quelques contacts avec des gens qui sont dans cette situation.
Ouais, moi je pense qu'il faut effectivement... ces arrêts maladie, ça vient s'ajouter à une souffrance qui est déjà là. Sur l'établissement où je suis, il y a quelques collègues qui étaient en arrêt maladie avant le Covid pour de la souffrance au travail, quoi. C'est vraiment un secteur où la souffrance au travail est très présente. On travaille avec des personnes qui vont pas bien et on le fait pas dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les professionnels aussi d'être serein et de pouvoir faire leur travail comme il faut. Et en plus de ça, on vient leur rajouter des pressions parce qu'il y a eu une vraie pression, à la fois médiatique, à la fois des directions, à la fois des collègues. Ça, c'est une pression sociétale qu'on se retrouve à devoir porter sur nos épaules, en plus de la pression du public qui est déjà forte dans nos métiers.
Je pense que ce que je peux rajouter, c'est que oui... ce qui est ultra violent, hein, c'est que dans tout ça, quand on va jusqu'au bout et qu'on se laisse suspendre ou qu'on se met en grève, sinon comme Pierre, on a souvent un discours en face qui nous dit oui, ben en fait c'est ton choix quoi. Ben, non, c'est pas un choix, non. Je fais le choix de pas me vacciner, mais par contre je fais pas le choix de pas avoir de salaire à la fin du mois et d'être privé de mon travail quoi. Non, je ne fais pas ce choix-là. Et c'est la même chose pour les collègues qui se sont fait vacciner contre leur gré cet été. Bah, ils vont se faire vacciner. On leur dit, le docteur leur dit, mais non, mais vous savez que vous avez le choix quand même, hein, vous n'êtes pas obligés. Hein. Non, mais quel choix ? Au juste, je fais le choix de la liberté de choisir pour mon corps ou la liberté d'avoir mon salaire, de faire manger mes enfants tous les jours du mois, quoi. Donc voilà, non, il n'est pas question d'un choix, quoi. Non. Et puis bon, ce qui est quand même super dur, c'est que ben on a un mois et demi en gros pour se décider, quoi. Il y a rien derrière après de prévu, hein. On discute avec vous, on voit ce qu'on peut faire, on vous met en télétravail un temps, on vous laisse le temps de réflexion, je sais pas, des solutions qui pourraient peut-être être des solutions entendables par certains, et puis non, il n'y a pas de réflexion autour de tout ça, quoi. C'est aucun septembre, vous êtes suspendu, point. Enfin voilà, donc c'est raide, quoi.
Et du coup, rien à attendre du côté de vos employeurs. De la société, des syndicats, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous envisagez désormais en termes de lutte, en termes de moyens d'action, si vous en avez, des moyens d'action individuels ou collectifs? Est-ce que vous arrivez à créer du collectif? Parce qu'en fait, ces suspensions, ça crée aussi beaucoup d'isolement, parce que vous n'avez plus la possibilité d'aller sur vos lieux de travail, parce que vous êtes hors du monde du travail et on sait combien ça isole. Quelles sont un peu vos perspectives en termes de réaction à opposer à cette violence qu'on vous fait subir ?
C'est très compliqué de réagir parce que malgré tout, cette violence, elle s'applique du coup à une minorité de personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Dans cette minorité de personnes-là, c'est compliqué de créer un collectif et de créer de la lutte parce que ben, y a des personnes qui moralement sont détruites et qui ne sont pas en capacité de lutter là tout de suite. Y a des personnes qui ont décidé de tourner la page très vite et de dire bon bah tant pis, je vais aller faire autre chose, je fais une reconversion professionnelle, voilà. Et du coup syndicalement on a rencontré des collectifs, on a rencontré d'autres syndicats, on a essayé de créer un petit collectif, mais c'est très compliqué et ça prend pas trop, quoi. Donc en termes de lutte aujourd'hui, on est un peu démunis sur qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, à part essayer de faire front, d'accompagner un peu les gens. On a commencé à contacter des avocats pour voir quelles procédures peuvent être faites en justice, mais c'est des procédures qui vont être très longues, donc ça apporte pas une solution là tout de suite parce que ben, y a pas de salaire, donc
il y a des situations urgentes,
c'est ça, on peut pas attendre 2 ans, 3 ans qu'une procédure judiciaire se fasse. Donc là, tout de suite, c'est vrai que c'est raide et c'est compliqué, quoi. La sortie n'est pas claire. Surtout que je pense qu'est le plus difficile dans cette situation, c'est qu'on nous dit vous êtes suspendu. Donc officiellement jusqu'au 15 novembre, je crois. Sauf qu'après le 15 novembre, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si la suspension est continue, si c'est un licenciement, si c'est une rupture conventionnelle. Enfin, on a aucun élément sur qu'est-ce qui va se passer pour nous dans un mois.
Et du coup, l'incertitude ajoute à l'angoisse, oui, j'imagine.
Alors, c'est vrai que, comme il disait, c'est dur de se mobiliser parce que y a ceux qui ont besoin de vraiment trouver les finances pour avoir de quoi manger tous les jours, quoi. Donc, ils n'ont pas non plus l'esprit à tout ça. Et il y a ceux qui ont besoin de se reconstruire. Voilà, qui ont besoin d'abord de se reconstruire personnellement pour ensuite avoir le jus pour lutter, quoi. Donc, bon, c'est pour ceux qui entrent dans la démarche, ça va être effectivement une démarche très longue, quoi. Et avec, au final, on ne sait pas trop quoi au final, mais bon, c'est vrai que je pense que ça reste quand même nécessaire d'essayer de rentrer, enfin, de résister, d'entrer en lutte, au moins pour défendre ses valeurs jusqu'au bout. Voilà. Après, c'est pas simple, pas simple.
Oui, enfin, c'est assez admirable ce que vous faites. On entend souvent le slogan "on lâche rien". En fait, dans les luttes sociales, on lâche beaucoup. Vous faites partie là de ces salariés qui ont décidé que là, on lâchait pas et que même si on devait perdre son emploi, même si on devait plus avoir de salaire, on lâcherait pas quand même. Mais au quotidien, ça doit pas être simple à vivre, ça doit pas être simple à assumer. Est-ce que vous arrivez à avoir des contacts avec d'autres secteurs professionnels qui essaient aussi de se mobiliser sur des thématiques un peu parallèles? Je pense notamment aux salariés des bibliothèques qui sont en train là de se mobiliser contre le pass sanitaire imposé aux usagers et usagères des médiathèques, et notamment contre le pass sanitaire imposé aux enfants. Est-ce que c'est des contacts que vous arrivez à avoir? Il y a eu une grève récemment, mercredi dernier, on devait être le 13 octobre, ouais, c'est ça.
Alors, on a été sur cette grève-là, sur le 13 octobre, il y avait des... Enfin, du moins, en tout cas, j'y étais pour représenter Sud Santé Sociaux. Après, pour l'instant, il n'y a pas de synergie entre les deux mouvements pour essayer de faire quelque chose, mais malgré tout, les deux mouvements restent assez petits. Donc je pense qu'on se soutient l'un l'autre, mais qu'on n'est pas encore dans un mouvement unique. En tout cas, on n'a pas cette puissance-là de pouvoir remonter ensemble. Et même si on remontait ensemble, ça ferait quand même pas un mouvement énorme, même si effectivement on essaie quand même de se regrouper pour porter un peu plus.
Il y a eu une journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale le 5 octobre. Ça ne faisait pas partie des grandes revendications portées, cette question des suspensions. Comment vous le vivez, ça? Quel regard vous avez porté sur cette grève du 5 octobre?
Alors, moi, j'étais en plus à la réunion intersyndicale qui permettait de préparer cette grève-là. Et c'est vrai que le dialogue avec les autres syndicats, du coup, moi, j'étais pour Sud Santé Sociaux, a été compliqué parce que pour eux c'était un sujet clivant et que clairement ils n'étaient pas très favorables à vouloir le défendre, en tout cas pas l'afficher trop fort, quoi. Et du coup, bah, c'était un peu une journée de grève, une grève de rentrée comme on peut en faire tous les ans et qui tient pas trop compte de cette actualité là. Donc on y a été quand même pour manifester notre mécontentement, pour demander, parce que c'était aussi pour demander des moyens supplémentaires et ce genre de choses, mais enfin, c'est difficile de voir que les acteurs qui sont là pour lutter, on n'arrive pas à s'organiser pour lutter efficacement, pour défendre les personnes qui sont opprimées, parce que c'est une oppression qu'on est en train de vivre et c'est difficile, quoi. Il y a vraiment un sentiment d'impuissance face à ce rouleau compresseur là.
En fait, le sujet est tellement clivant que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment à tous les niveaux. Enfin voilà, quand on discute avec les gens autour de soi, on voit que ça scinde énormément dans les groupes d'amis, dans les familles, Là, bah, nous, concrètement, bah, ça, c'est clivant aussi au travail, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui clive à vraiment à tous les niveaux. Donc, on le retrouve aussi au niveau des syndicats.
Peut-être qu'on peut faire une nouvelle pause musicale sur des mobilisations, justement. Alors, ce que je vous propose comme pause musicale, c'est une chanson en manif, donc avec le son tel qu'il est pris en manif. Et c'est devant l'hôpital Robert Debré, c'était en mai 2020, donc juste après la crise du Covid, à la reprise. Ce sont des soignants et des soignantes qui ont fait une reprise de la semaine sanglante.
Le quotidien, c'est la misère quand des patients et leurs mamans arpentent les hôpitaux déserts en quête de soins pour tous leurs maux. Oui, mais avant le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les autres y mettront. Tu es l'hospitalité. Moi, j'aime d'être, c'est du blabla. Ça ne devrait pas exister. Pour tous, la santé, c'est un droit. Et on va se battre pour la garder. Oui, mais ça prend le temps, le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche.
Merci à ces soignants et soignantes de l'hôpital Robert Debré à Paris, dans le 19e, je crois, qui étaient en grève et en manifestation. C'était en mai 2020, juste après la crise du Covid. Vous écoutez Radio Albigès sur les ondes 95.4 ou 104.2 et on consacre cette émission aux suspensions dans les secteurs professionnels soumis à l'obligation vaccinale avec deux salariés suspendus, Pierre et Laure, pour en parler avec nous. Je voulais cette pause musicale qui revendique des moyens pour l'hôpital et qui décrit la situation délabrée de l'hôpital public, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, ces suspensions de salariés que vous subissez, Pierre et Laure, c'est aussi des moyens en moins pour les usagers et usagères que les secteurs dans lesquels vous travaillez, que ce soit la santé ou le médico-social, c'est des secteurs qui sont ultra utiles à la société, dont on a tous et toutes besoin, et qu'en fait, ces suspensions qu'on vous fait subir, ça lèse un peu tout le monde, ça lèse tout le monde, parce que des professionnels formés, des professionnels dont on a besoin, sont aujourd'hui empêchés de travailler. Vous, comment vous envisagez la suite professionnellement ? Est-ce que c'est des questions que vous arrivez à vous poser dans la situation où vous êtes ? Est-ce que vous envisagez un jour de reprendre votre travail tel que vous l'avez pratiqué avant ? Est-ce que vous avez envie de le reprendre ? Est-ce que ça vous fait réfléchir un peu sur tout ce qu'on vous a fait subir depuis des années ?
Alors, c'est une question qui n'est pas facile à trancher. Du coup, moi, je me la pose beaucoup depuis juillet, et du coup, encore plus depuis le 15 septembre. Là, moi, j'ai fini par me dire que j'ai quand même une chance par rapport à d'autres corps de métier, type infirmier, aide-soignant, tout ça. C'est que je suis éducateur spécialisé, donc je ne peux plus travailler dans le sanitaire, donc tout ce qui est psychiatrique, hôpital. Je ne peux plus travailler dans le médico-social, tout ce qui est handicap, par exemple. Par contre, je peux encore travailler dans le social. Protection de l'enfance, exclusion, tout ça.
Ça fait aussi partie des incohérences, en fait.
Ce qui fait aussi partie des incohérences, effectivement, parce que, par exemple, je pourrais travailler avec des jeunes qui sont accueillis là où je suis censé travailler actuellement, mais juste, je change de structure, c'est bon, je peux travailler avec eux, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis dans cette optique-là aujourd'hui, c'est de me dire, tant pis, on veut plus de moi dans le médico-social, et je vais partir dans le social, remonter là-bas. Voilà, donc je pense que je reviendrai pas sur mon ancien travail et que je commence déjà à me projeter sur un ailleurs, quoi.
Moi, c'est très compliqué parce qu'en fait, mon diplôme, il dépend du ministère de la Santé. Donc, des CESDA ou des INJS, à tous les instituts qui accueillent des jeunes sourds ou dysphasiques, sont soumis à la vaccination obligatoire. Donc voilà, donc moi c'est le gros point d'interrogation pour l'avenir, quoi. Donc c'est des choses auxquelles j'essaie de réfléchir, mais c'est pas simple. Voilà, il y a la question du 15 novembre, hein, donc qui arrive un petit peu aussi comme un ultimatum, comme disait Pierre, hein, on ne sait pas trop ce qui va se passer en fait. Donc voilà, donc c'est compliqué. Pour le moment, je sais pas. Là, c'est pour moi c'est trop dur, trop court, quoi, de me dire. D'avoir si peu de temps de réflexion, ça fait que 10 ans que j'enseigne avec mon diplôme, donc 10 ans d'expérience seulement. Je ne m'étais pas dit, au bout de 10 ans, tu changes de boulot. Enfin, la formation, ça a été quand même un investissement pour moi. C'était énormément de travail, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui m'a beaucoup coûté quand même. Donc voilà, c'est dur de ce côté-là, c'est dur. Et bon, je suis obligée de réfléchir à la suite, hein, de toute façon, hein, mais... Mais voilà, et d'un autre côté, le retour au travail, s'il était possible, questionne aussi beaucoup, hein, parce que là, actuellement, moi, je reste en lien avec certains collègues qui demandent des nouvelles et qui sont en poste parce qu'ils se sont fait vacciner pendant l'été, forcés, quoi, pour garder leur salaire. Et je me rends compte qu'ils sont pas mieux que moi moralement, en fait, hein, voire pour certains, peut-être que c'est même plus dur parce qu'ils ont dû s'asseoir sur leur valeur, s'asseoir sur leur liberté. Et puis voilà, ça met pas une folle ambiance au niveau du boulot, hein, toujours ce côté clivant, je pense qu'ils le sentent aussi. Et du coup, c'est compliqué d'aller bosser tous les jours avec tout ça, quoi. Donc voilà, ça aussi, ça me questionne. Le retour au boulot, s'il était possible un jour, c'est un peu trop pour en parler, je pense.
Merci en tous les cas pour ces témoignages très précieux. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On vous souhaite beaucoup de courage. On ne sait pas trop quoi vous souhaiter. Ça nous rend un peu impuissants et impuissantes. Tu l'as dit, Pierre. L'urgence, vous l'avez souligné aussi, c'est de survivre, en fait. Hein, parce qu'il y a des collègues pour lesquels c'est très compliqué, la survie au quotidien. Des collègues qui sont seuls, avec des enfants à élever. C'est une chose qu'on peut faire. Il y a une caisse de solidarité qui a été montée par un collectif citoyen, actif notamment dans les manifs contre le pass sanitaire le samedi. Cette caisse, elle dispose d'une adresse mail. Si vous voulez faire une promesse de don, c'est possible. Et puis, on s'arrange après pour trouver le moyen de récupérer le don que vous voulez faire. Je vous donne l'adresse mail. C'est caisse solidarité81, tout ça en minuscule, tout attaché, sans accent sur solidarité, @mailo.com. Laure, tu vas ajouter
quelque chose ? J'en profite, puisque tu parles de solidarité et de caisse. La semaine dernière, certains collègues de boulot se sont mobilisés pour faire une collecte alimentaire pour justement les collègues suspendus et une petite caisse. Et on les en remercie vraiment chaleureusement parce que, au-delà de tout ça, c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur, en fait, de ce genre d'initiative. Et vraiment, on les embrasse tous, quoi.
et on a aussi de grosses, grosses pensées pour d'autres salariés dans votre situation ou en arrêt maladie dans un état qui nous interpelle, tous ces collègues que l'on connaît, que l'on côtoie et qui aujourd'hui ne sont pas avec nous parce qu'ils n'ont pas la force, l'énergie de venir nous rejoindre. Merci encore beaucoup à vous, très bon courage et puis on va essayer de rien lâcher à vos côtés.
Merci.
Merci.
Merci à Melvin pour la technique de l'émission.